Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur l'impact de l'intelligence artificielle sur Canva, un podcast produit par la Brigade du Web, le collectif d'influenceurs B2B. Je suis Annie Abella, la fondatrice de la Brigade du Web, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Marcois et Céline Bécriche, toutes deux membres de la Brigade du Web. Nos deux expertes vont décrypter les nouvelles fonctionnalités de Canva, l'outil de création le plus utilisé dans le monde. Bonjour Céline, bonjour Émilie.
Bonjour.
Émilie, si tu veux bien, je te laisse la parole pour introduire Canva.
Merci Annie, merci pour cette introduction. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Canva, Canva est un outil de design graphique en ligne qui permet à ses utilisateurs de créer des designs professionnels et personnalisés, et ce pour une grande variété de projets. D'ailleurs au sein de la brigade, on l'adore puisqu'on l'utilise très souvent pour créer toutes sortes de visuels. C'est aussi bien un flyer, une infographie, qu'un carrousel pour Instagram. Donc on est de fervents utilisateurs de l'outil. Alors, il faut savoir qu'il compte aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde, et à sa sortie en 2010, il a véritablement révolutionné la création de visuels, puisqu'en fait, on n'avait pas besoin de compétences spécifiques et pointues en graphisme. Alors, on savait que la plateforme proposait déjà des fonctionnalités basées sur l'IA, mais là, ils ont monté un cran au-dessus, puisqu'ils ont annoncé il y a quelques semaines une section, carrément une section dédiée à l'intelligence artificielle qui s'appelle Studio Magique. Et donc, aujourd'hui, la question qu'on va se poser, alors, quand on va booster l'IA, vraiment magique ? Alors Céline, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de passer en revue quelques outils et fonctionnalités clés. Le but, c'est que les gens qui nous écoutent puissent savoir de quoi on parle concrètement.
Alors, pour Canva, c'est pas seulement de l'IA, tu vois, c'est le studio magique. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le nomment. Concrètement, le studio magique, c'est quoi ? Bah, ce sont des fonctionnalités qui utilisent l'IA, mais simplifiées, comme c'est si bien le faire Canva. Est-ce que tu veux quelques exemples, Émilie ?
Oh oui, bien sûr, tout à fait.
Alors, tu vois, par exemple, il y a gomme magique. Alors, celle-ci, je pense que tout le monde l'attendait. Ça permet d'éliminer des détails indésirables de ta photo. Tu as également écriture magique. Celui-là, franchement, je l'utilise beaucoup ces derniers temps. Je l'ai testé, notamment quand je faisais mes supports de formation pour pouvoir rédiger de nouveau ou reformuler des phrases que j'avais dans ma presse, par exemple, ou carrément même des paragraphes. Tu peux résumer, tu peux développer ton texte, corriger des fautes, donner un ton particulier, c'est franchement super sympa. C'est vraiment une aide dans la rédaction. Et puis, il y a texte ou image. Là, tu vas décrire, par exemple, une situation, un contexte, et l'intelligence artificielle va interpréter ton sujet. Et ils ont même été plus loin puisqu'ils ont lancé dernièrement en bêta la même chose, mais pour les vidéos, et c'est franchement bluffant. Est-ce que toi, t'as un coup de cœur dans ces nouvelles fonctionnalités, Émilie ?
Alors j'avoue que j'aime bien le texte ou image, c'est très très pratique, notamment pour générer des visuels pour l'événementiel ou pour certains de mes clients. Donc franchement, comme le texte ou vidéo, totalement bluffant quoi.
Il y a aussi la transformation magique, je sais que t'aimes bien aussi cette fonctionnalité. Je trouve ça plutôt fabuleux parce que je l'ai testé et j'en ai fait un tuto d'ailleurs. Tu peux utiliser une photo et parfois tu sais qu'on a des visuels et qui ne sont pas à la taille du format qu'on voudrait à destination des réseaux sociaux. Eh bien là, l'intelligence artificielle va carrément combler et réinterpréter tout le contexte de la photo pour qu'elle soit à la bonne dimension. Et je trouve ça vraiment super, tout en proposant des options. Tu as plusieurs suggestions de la plateforme.
En tout cas, on pourrait passer beaucoup de temps sur les fonctionnalités. Alors, tu as évoqué les tutos. Où est-ce qu'on peut les retrouver ? Parce que je sais que tu en fais souvent, notamment sur Instagram.
Oui, alors tout à fait. Bah, sur le compte de Céline, bien sûr. Parfois, je les publie aussi sur LinkedIn. Mais les derniers en date sont sur le compte Instagram de Céline. Et il y en a même d'autres, sans spoiler, qui vont arriver.
Alors Céline, utiliser Canva, on l'a bien compris, c'est pouvoir utiliser une pléthore d'outils. Alors c'est hyper séduisant et j'imagine que bien évidemment, nous tous au sein de la brigade, on l'a constaté, on gagne quand même en efficacité sur le processus créatif. Est-ce que tu es d'accord avec ce point-là ? Est-ce que tu as l'impression qu'au quotidien, tu as gagné énormément de temps par rapport à avant la sortie de Canva ?
Alors, franchement, il faut remettre aussi l'église au milieu du village, comme je dis. L'IA, vraiment, aujourd'hui, ne manque pas d'originalité, d'aide aussi au quotidien pour aider les créateurs de contenu qui soient débutants ou des créateurs plus confirmés, peut-être comme toi ou moi, ou les membres de la brigade. Est-ce que ça va changer le quotidien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça aide, ça simplifie. Et puis, Canva nous a toujours aidés depuis le début qu'il a été créé. Le fait d'intégrer en plus l'IA, c'est une sorte d'assistant personnel qui nous aide à vulgariser, à rendre plus ludique, à rendre accessible au plus grand nombre la création de contenu.
Alors, ce que je trouve très sympa dans ce que tu dis, et je me retrouve aussi dans l'utilisation de Canva, c'est qu'il y a déjà le côté ludique. Et pour tous ceux qui ont peur de la page blanche, autant te dire qu'il n'y a plus de page blanche parce qu'il y a tellement de modèles et de visuels types qui existent qu'on peut, franchement, on ne manque pas d'inspiration, en tout cas pour démarrer. On ne part jamais de zéro avec Canva et ça, c'est un vrai plus. Donc c'est finalement, ça ressemble à un outil parfait tout ça, donc on peut se demander, est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a des inconvénients dans Canva ou vraiment on n'a rien à lui reprocher? Et puis est-ce qu'il, surtout il y a une question que je me pose, parce que forcément j'ai évoqué tout à l'heure Illustrator et Adobe, c'est est-ce que finalement il est aussi puissant que ces outils-là, qui sont des outils je dirais dédiés à la création de visuels?
Alors, faut quand même faut raison garder, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est accessible au plus grand nombre, ça a été vulgarisé grâce à Canva, la création visuelle, mais il y a des outils quand même très très performants comme ceux que tu viens de citer. En termes de performance, clairement, il a ses limites, comme tu dis. Tout d'abord parce que certaines fonctionnalités sont encore en mode bêta. Par rapport, par exemple, à la suite Adobe, forcément, ils sont bien plus loin parce que c'était déjà un outil qui était utilisé par des experts. Nous, on est un peu dans notre bulle digitale, mais il faut aussi remettre dans le contexte que les utilisateurs classiques, par exemple, un commerçant, par exemple, que je côtoie au quotidien, lui, la suite Adobe, il l'apprendra pas. En fait, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors que Canva a aidé les entrepreneurs, les gens au quotidien à utiliser les outils créatifs. Donc, franchement, aujourd'hui, même si certaines fonctionnalités sont encore en mode bêta, on obtient quand même de bons résultats, même si parfois, je reconnais, c'est un peu approximatif. Mais on est sur du machine learning, donc toute l'intelligence artificielle sur la création visuelle qu'on peut reconnaître aussi ailleurs, eh bien en fait, sur Canva, ça évolue déjà, ça va encore évoluer et ça va se rendre de plus en plus accessible à tous les utilisateurs. Et je dirais pour les utilisateurs plus aguerris, comme un peu plus geeks, eux, ils vont préférer, par exemple, des outils d'IA vraiment dédiés, comme Midjourney, comme DALL-E, toutes ces autres options et fonctionnalités proposées par l'intelligence artificielle.
Je pense qu'il y a, si je puis dire, il y a une question d'accessibilité, ça c'est évident si on doit comparer Canva avec Midjourney ou DALL-E. Et puis il y a une question aussi de est-ce que j'ai suffisamment de temps à consacrer à ces outils-là, parce que Midjourney, autant Canva, on peut rentrer dedans assez facilement. Avec un outil comme Midjourney, le seul fait de créer un prompt efficace, correct, pertinent, précis pour obtenir ce qu'on veut, ça demande déjà un peu plus de temps qu'avec un outil comme Canva. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Tu as tout à fait raison, dans la mesure en plus où là, on parle vraiment de plein de plateformes différentes. Alors que Canva, t'es à la maison et t'as tout dedans. Et c'est simplifié et vulgarisé. C'est la force aussi de Canva jusqu'à présent, quoi. Il y a aussi un autre sujet. Tu sais, tu me demandais quels étaient les avantages et les inconvénients. Il y a aussi le côté que c'est payant. Là, les versions gratuites ne proposent pas les intelligences artificielles. Alors que sur la version payante, qui est hyper raisonnable, on est à 109 euros à peu près l'abonnement à l'année. Si on prend un ChatGPT, on est à 240, tu vois. Donc là, franchement, en une seule plateforme, on va autant créer des visuels très simples ou s'appuyer pour les créateurs de contenu de l'intelligence artificielle.
Donc, c'est hyper compétitif quand même au regard de tous les outils qui existent aujourd'hui. Donc, le coût n'est pas, était quand même, au départ, on aurait pu penser que c'était un frein, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça, surtout vu le temps qu'on gagne pour créer des visuels. Alors, on arrive au bout de ce podcast. Alors, bon, on l'a compris. Encore une fois, je répète, Canva est une application vraiment solide et facile à utiliser. Bon, il y a quelques inconvénients, mais c'est vraiment à la marge. Est-ce que tu aurais envie de donner un conseil en particulier aux auditeurs aux personnes qui nous écoutent, s'il y en a un qui devait les aider justement à faire ce choix de est-ce que je vais chez Canva ou est-ce que je vais sur un autre outil, est-ce que je choisis le critère du prix, est-ce que je choisis le critère fonctionnalité, est-ce que tu peux les guider justement? C'est pas toujours facile de savoir quel outil utiliser.
La première chose déjà, contrairement à ce qu'on pense, tout le monde n'utilise pas encore Canva. Moi, je suis très surprise au quotidien de voir des personnes qui découvrent finalement ou qui sont vraiment aux prémices de l'utilisation de Canva. La première chose, je dirais, n'ayez pas peur de vous faire accompagner la première fois pour utiliser la plateforme parce qu'elle sert à ça, mais il faut s'aider. Il y a énormément de tutos maintenant. Il y a des gens qui accompagnent, qui donnent des formations Canva. Et puis, il y a aussi YouTube qui donne beaucoup, beaucoup d'indications quand on veut commencer, débuter sur Canva. Et surtout après, mais c'est tester, tester, tester. En fait, ça sert à ça, Canva. Vous avez toutes les possibilités et vous pousse en plus les nouvelles fonctionnalités, un peu comme sur les réseaux sociaux d'ailleurs. On vous invite à tester les nouvelles fonctionnalités parce que pour eux, c'est aussi une sorte de gain, puisque si vous testez, vous faites bosser la machine et derrière, ils vont pouvoir ajuster et améliorer les performances. Et puis, franchement, en termes d'accessibilité, c'est très friendly et en plus, en termes de tarifs, c'est concurrentiel quoi, par rapport à d'autres plateformes.
C'est assez amusant hein, ce que tu dis, parce que dans le cadre de mes formations, en général, il y a toujours une partie où je vais évoquer les outils incontournables à avoir dans sa boîte à outils. Et quand j'évoque Canva, ils sont tous là. En fait, finalement, ils ont sauvé leur formation juste avec un outil qui s'appelle Canva, parce qu'ils trouvent que l'outil est vraiment génial, accessible. Et ils se disent, ah, c'est sérieux, on peut faire des choses aussi innovantes et intéressantes avec un tel outil. Donc, je te rejoins là-dessus. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas l'outil, malheureusement, et pourtant, c'est pas faute de toute la communication qu'on peut avoir autour d'outils. Alors, on a parlé beaucoup fonctionnalités, beaucoup outils jusqu'ici sur l'intérêt d'utiliser Canva. Par contre, on n'est pas rentré dans le fond du sujet. C'est finalement, est-ce que Canva va remplacer le créateur de contenu? Est-ce que l'humain est encore indispensable aujourd'hui, malgré tous ces outils et surtout l'arrivée de l'intelligence artificielle? On a l'impression tout le temps que ça va remplacer l'humain et tout le travail de créativité de l'humain.
Pour moi, clairement, non. Alors, on n'aura peut-être pas tous le même avis, mais je le considère vraiment comme un super assistant, comme n'importe quel IA d'ailleurs. Ça nous permet de gagner du temps, permet de se libérer du temps de cerveau pour l'idéation justement, parce que si finalement tu as une idée, tu sais que l'IA va pouvoir t'aider à la contextualiser, conceptualiser. C'est vraiment un facilitateur de création. C'est un assistant, il faut le voir comme ça, et vraiment pas comme le remplacement de ton idée, de ton imaginaire. L'IA ne pourra pas remplacer ce que tu as dans la tête et ce que tu te projettes. Par contre, il va pouvoir t'aider à le contextualiser. Et ça, c'est un vrai, vrai gain de temps.
Excellent. Et donc, je partage tout à fait ta vision. Allez, on arrive vraiment au bout. Encore une dernière info, un dernier message que tu aimerais faire passer?
Oui, alors, tu sais, on parle souvent de l'IA dans Canva ou même ChatGPT maintenant intégré aussi Canva dans son interface, alors que l'espace de Canva regorge d'outils supplémentaires que beaucoup n'utilisent pas ou ne savent même pas. En fait, il y a un espace que je peux conseiller à tout le monde hein, qui s'appelle Applications dans Canva, où là, tu vas pouvoir retrouver pléthore de fonctionnalités. Bah, notamment, tu as DALL-E, tu as QR code stylisé. Ils avaient déjà la fonctionnalité QR code. Tu mets un lien dans Canva et te génère le QR code. Maintenant, ils en ont créé un supplémentaire, mais trop mignon, où ça te fait des QR codes vraiment artistiques. Tu as l'avatar, tu as par exemple la voix qui peut venir sur un visuel, une voix évidemment générée par une intelligence artificielle, bien sûr, qui est encore limitée parce que certaines fonctionnalités aujourd'hui sont encore en anglais. Mais il y a énormément d'outils supplémentaires en application que je liste d'ailleurs parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais en fonction des besoins, tu peux vraiment retrouver des applications qui peuvent t'aider en plus de l'outil Canva et qui sont intégrées à Canva.
Alors, on pourrait en parler des heures, je crois, et puis en plus, c'est tellement passionné par le sujet. Alors, le côté mimi, tout ça, j'ai l'impression de me retrouver des fois dans des mangas ou des dessins animés des années 80. Bon, je trouve ça génial, mais je crois que je vais laisser la parole à Annie pour faire la conclusion parce que sinon, on est encore là dans une heure. Voilà, Annie, je te redonne la parole et merci encore, Céline.
Un grand merci, Émilie et Céline, pour ce podcast. C'est extrêmement intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est que Canva, c'est pour les novices, c'est simple, facile à utiliser. En plus, avec l'IA, on arrive à faire des choses extrêmement professionnelles. Merci, merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, suivez la Brigade du Web sur X avec le compte @labrigadeduweb et le hashtag LBW. N'hésitez pas à me contacter à annie@labrigadeduweb.fr si vous souhaitez faire appel à notre expertise pour booster vos événements ou vos contenus. À très vite.